La marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans la marche des sciences.
La mer est une grande dresseuse d'hommes. On y apprend à faire son devoir, tout simplement et sans phrase. Dans les cerveaux les plus obscurs, elle met ce grain d'idéal qui est nécessaire à l'homme pour accomplir de grandes choses.
Ainsi parlait Jean-Baptiste Charcot, docteur en médecine, devenu le commandant Charcot. Un homme qui a réalisé ses rêves en devenant le pionnier de l'exploration des zones polaires. Fils du célèbre neurologue Jean-Martin Charcot, Jean-Baptiste ne put d'emblée assouvir sa passion de la navigation et sa quête de découverte. Mais sa ténacité, doublée de sa certitude qu'il avait là des choses à réaliser pour la science et pour la France, firent le reste. Du petit garçon de 5 ans qui essuya son premier naufrage sur une frêle embarcation baptisée le Pourquoi pas, au milieu du bassin familial, à la disparition du commandant justement sur son célèbre navire, le bien nommé Pourquoi pas, c'était en 1936 au large des côtes d'Islande, Charcot allait vivre son rêve d'enfant jusqu'à la mort. Médecin de formation, marin de vocation, qui était ce pionnier des expéditions polaires françaises? Quelles furent ses découvertes et ses avancées scientifiques? Que reste-t-il de cet humaniste, salué par ses coéquipiers pour sa bonté et devenu un modèle pour nombre d'aventuriers de ces terres de glace? Retour sur le parcours de cet homme, qui fut le premier à comprendre l'intérêt scientifique des régions polaires, avec en direct dans le studio 158 de France Culture, Serge Kahn, passionné du monde polaire et auteur du livre Jean-Baptiste Charcot, explorateur des pôles, un livre tout juste paru chez Glénat. Et cette première partie d'émission sera illustrée d'archives sonores de l'INA, exhumées par Anaï Morales, et de textes lus par le comédien Thibaut de Montalembert. Et puis en seconde partie, vers 14h45, nous nous intéresserons à une compagnie de théâtre, L'essence des mots de Thibaut Rossigneux et au concept binôme, cette idée de réunir un scientifique et un auteur, de provoquer une rencontre insolite et créatrice dans des conditions très cadrées, et le tout pour aboutir à l'écriture d'une petite pièce de théâtre, une perle issue de cette symbiose créée entre deux êtres d'univers différents. Et c'est l'auteur Julie Yamint qui sera avec nous pour en parler par téléphone et parler de sa pièce intitulée Les larmes acides de Bonne Maman. Et ce principe binôme, bien sachez que vous pourrez le découvrir demain à l'auditorium Angèle et Roger Tribouillois de Bondy en banlieue parisienne avec la pièce de théâtre intitulée Atlantide, et ce sera dès 14h30. Mais tout de suite, Jean-Baptiste Charcot, la destinée d'un explorateur des pôles.
D'où vient donc l'étrange attirance de ces régions polaires, si puissantes, si tenaces, qu'après en être revenus, on oublie les fatigues morales et physiques pour ne songer qu'à retourner vers elles? D'où vient le charme inouï de ces contrées pourtant désertes et terrifiantes? Est-ce le plaisir de l'inconnu, la griserie de la lutte et de l'effort pour y parvenir et y vivre, l'orgueil de tenter et de faire ce que d'autres ne font pas, la douceur d'être loin des petitesses et des mesquineries? Un peu de tout cela, mais autre chose aussi.
Bonjour Serge Kahn.
Bonjour.
C'est un texte magnifique parmi d'autres textes que vous nous offrez dans votre livre, dont je rappelle le titre, Jean-Baptiste Charcot, Explorateur des pôles, un livre paru chez Glénat. Et ce texte qui finit par « mais autre chose aussi ». Qu'est-ce qu'il voulait dire là, Jean-Baptiste Charcot?
Écoutez, je voudrais d'abord revenir sur le moment où il prononce ce texte. C'était après sa première expédition en Antarctique. Donc il avait fait un travail colossal et scientifique et il avait assuré le premier hivernage de la France en Antarctique. C'était en 1904, au moment où d'autres pays étaient déjà sur le continent et il a voulu que la France s'associe et soit présente. Donc ça, c'était vraiment une très belle démarche scientifique et patriotique. Et il a prononcé cette phrase donc au retour. Et derrière cette phrase, on sent sa volonté d'y retourner. Il a été saisi par ce qu'il a vécu, par les impressions qu'il a ressenties dans ce monde glacé et par tout le travail scientifique qu'il a fait. Et il en a conclu qu'il y avait encore une œuvre très importante à poursuivre.
Alors, votre livre est très documenté, beaucoup d'archives. Alors, ces archives, on a envie d'emblée de vous demander, mais elles se trouvent où? À partir de quoi est-ce que vous avez travaillé? Il faut préciser aussi que vous êtes vraiment un passionné et de Charcot et de ses aventures polaires et que vous y avez consacré de nombreuses années.
Oui, alors effectivement, les archives, il y a beaucoup d'archives qui sont dans la famille, hein, la famille Charcot. Moi-même, je suis collectionneur de courriers hein, depuis fort longtemps, les courriers polaires, donc j'ai également un certain nombre de documents. Et j'ai consulté les archives, notamment à la Société de Géographie et au Yacht Club de France, qui sont deux institutions où Charcot a eu un rôle extrêmement important, en ayant été le président ou un membre très éminent. Donc on reviendra peut-être tout à l'heure sur ces deux institutions qui jouent un rôle important dans le parcours maritime de Charcot.
Exactement. Et pour bien vous situer, on peut dire qu'au-delà du travail que vous avez mené dans les documents écrits dans ces archives, vous avez même souhaité refaire le parcours hein, jusqu'en Antarctique avec la petite fille de Charcot, Anne-Marie Valin Charcot. Et c'était au printemps 2004.
Oui, effectivement, c'était le centenaire donc du premier hivernage, comme je vous le disais, à bord du Français en 1904. Et on a monté donc une expédition avec quelques amis et quelques personnes intéressées pour retourner donc sur les traces et notamment retrouver ce qui avait été laissé. Et on trouve encore à Port Charcot, là où il a hiverné en 1904, on a retrouvé des restes de la cabane démontable, on a retrouvé un certain nombre de pièces enfouies dans la neige. Donc ça a été effectivement très très intéressant sur le plan
très
historique
émouvant aussi.
Et très émouvant. Absolument.
On peut imaginer, et ces photos, je le signale, on les trouve offertes dans votre ouvrage. Alors ce goût pour les bateaux de Jean-Baptiste Charcot remonte à l'enfance, hein, et d'ailleurs vous allez peut-être nous expliquer la raison du célèbre nom, le pourquoi pas.
Alors effectivement, il y a plusieurs versions, hein. Il y a un petit peu un mythe ou une mythologie sur cette appellation. On lui aurait posé la question, est-ce que tu veux devenir marin? Lorsqu'il avait à 5 ans un petit bateau en bois à la main qui lui avait été offert par des amis à Londres. Et on lui pose la question, veux-tu être marin? Et il répond, pourquoi pas? Ensuite, il écrit que pourquoi pas, c'était effectivement le résumé de son caractère et il écrivait ces deux mots dans ses cahiers d'école. Et pourquoi pas, il avait dit que c'était non seulement le résumé de son caractère, mais c'était à la fois l'expression d'un doute et d'une détermination et qui caractérise également ce personnage.
Oui, ce qu'il a montré tout au long de sa vie.
Voilà, le doute à travers pourquoi, hein, questionnement, on cherche. Et pourquoi pas, c'est une détermination. Plutôt que de donner une réponse à la question pourquoi, en disant pourquoi pas, on met un terme et ça montre une volonté d'agir, d'action. Et on y reviendra peut-être, mais l'action est également un des moteurs de Jean-Baptiste Charcot tout au long de sa vie.
Et donc il aura plusieurs bateaux hein, tout au long de sa vie, mais la plupart il les baptisera de ce nom pourquoi pas.
Alors il va en baptiser 4 du nom de pourquoi pas, il y en aura 3, et puis le quatrième, le fameux pourquoi pas, qui sera lancé en 1908 et qui terminera en 1936.
Avec le naufrage dont on parlera à la fin de l'émission. Mais son premier naufrage remonte à 5 ans, alors sans gravité, hein, dans le bassin familial. Il va faire des études à l'école alsacienne de 1876 à 1885. Et puis là, il exprime, il veut faire la marine, l'école navale. Mais par bonheur et par malheur un peu aussi pour lui, son père, c'est le fameux Jean-Martin Charcot, le célèbre neurologue, qui lui dit non, là, tu feras médecine. Parce que la médecine mène à tout.
À la fois la médecine mène à tout et puis il était, à cette époque, il était usuel, habituel, que les enfants fassent le même métier que les parents. Mais Jean-Baptiste Charcot a été donc très déçu par ce commandement paternel, mais cette déception a été atténuée parce que Jean-Martin a ajouté « mais je ne t'empêcherai jamais de naviguer ».
Oui, donc il lui permettra d'acheter un premier bateau. Et puis son père aussi avait ces phrases qui sont restées dans la tête de Jean-Baptiste Charcot. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'un but est à atteindre, un idéal à réaliser. Je pense que ça a pu être un moteur hein, pour ce jeune homme qu'il était à l'époque.
Oui, et puis j'ajouterais, son père lui avait dit aussi, dans la vie, il faut exceller en quelque chose. Et effectivement, Jean-Baptiste a voulu exceller, non pas en médecine, puisque pour lui, le nom de Charcot, c'était son père. Donc il n'aurait jamais été qu'une, entre guillemets, pas l'imitation de son père. Donc Jean-Baptiste a voulu exceller sur la mer et sur les mers.
Même si, on peut le rappeler, il fait un parcours sans faute, hein, reçu à l'internat en 1891. Son père disparaît en août 1893. Et lui, Jean-Baptiste Charcot, devient docteur en médecine en 1897. Il va aussi, c'est important, ça va lui servir dans ses expéditions, il va acquérir une rigueur scientifique à l'Institut Pasteur, hein, parce qu'il suit les recherches sur le cancer auprès de Roux et de Metchnikoff, hein, ce qui n'est pas rien quand même, deux lieutenants de Pasteur.
Tout à fait. Donc non seulement ça va renforcer sa rigueur scientifique, mais également ça va lui donner une notion respectueuse de la vie sous toutes ses formes, de la vie animale et de la vie humaine, ainsi que de la nature. Et ça, on le retrouvera tout au long de ses expéditions. Et peut-être tout à l'heure, j'aurai l'occasion de raconter quelques anecdotes à ce sujet.
Et oui, parce qu'on va s'intéresser au portrait de l'homme, hein, caractérisé par la bonté, la modestie. Pour en prendre la mesure, je vous propose d'écouter sa fille Martine. Il a eu trois filles, on va en parler, mais notamment une de ses filles, Martine, parlait sur Radio Paris. Alors, la date, on ne sait pas si c'est en 1941, 1944, ça ce sont les mystères des archives sonores de l'INA. Mais en tout cas, elle s'exprimait sur cette antenne.
Il était si bon, et l'exclamation qui vient à tous ceux qui ont connu mon père. Il avait horreur de faire de la peine, et poussait même cela si loin que nous l'avons vu souvent, ma sœur et moi, nous demander pardon d'une juste punition due à quelque incartade. Il venait en général le soir, lorsque le cœur gros nous étions couchés. Sans faire de lumière, il s'approchait du lit de la coupable. « Allez, va, n'y pense plus, c'est fini. » Et un baiser scellait la réconciliation. Il va sans dire qu'avec ses principes d'éducation, il obtenait de nous tout ce qu'il voulait. Il obtenait d'ailleurs ce qu'il voulait de tous, car il se faisait aimer de tous. Il donnait beaucoup, aussi bien son argent que son temps, que sa pensée même. Un de ses collaborateurs, actuellement prisonnier, écrit de lui. « Pour tous ceux qui une fois furent auprès de lui sur le pourquoi pas, comme savant ou comme marin, Charcot fut un véritable père. Tous pouvaient compter sur lui. Et compter sur Charcot, il n'était pas un homme à bord qui ne sût ce que cela voulait dire. »
Alors, un humaniste.
Effectivement, c'était.
Il
était
plein de bonté.
Il était un père pour tous, mais à la fois, il avait aussi ce comportement apprécié de ses collaborateurs de leur laisser une part de responsabilité. Donc, il était paternel, mais également, il voulait que chacun puisse aller faire ses propres expériences et aller au bout de ses limites pour se connaître. Et je citerai, si vous voulez, un épisode, c'était en 1923, lorsque le Pourquoi Pas fait sa croisière, sa seule croisière, disons, non polaire ou non, qui était en Méditerranée. Et au départ de Saint-Servan, il y avait un jeune aspirant qui s'appelait Marsouin, qui prend le quart, donc, au départ de la croisière. Et Jean-Baptiste Charcot lui dit: « À vous le soin, monsieur l'aspirant, vous savez où nous sommes, nous allons à Alicante, bonsoir. » Vous voyez qu'à travers cette phrase extrêmement courte, il donnait toute la responsabilité donc à ce jeune aspirant de conduire le bateau de Saint-Servan jusqu'à Alicante.
Donc la confiance aussi, hein, il savait la placer en ses hommes. Alors une vie qui ne sera pas facilement conciliable d'ailleurs avec une vie de famille. Il aura une première femme, Jeanne Hugo, petite fille de Victor Hugo hein, quand même. Et puis ensuite il se mariera avec Elisabeth Marcel Marguerite Cléry en 1907, fille d'un célèbre avocat parisien. Et il aura trois filles. Alors il faut préciser que la première fille, Marie-Louise, surnommée Marion, est une fille qu'il a eue avec une infirmière de la Salpêtrière. Et cette infirmière était morte en couche. Ça, c'était auparavant. Et puis ensuite, il aura Monique et Martine. Et d'ailleurs, c'était Martine qu'on entendait dans le document sonore. Mais une vie de famille pas facile, qui en a pâti un petit peu quand même. Serge Kahn.
Une
vie de famille.
Oui, il a eu une vie de famille, effectivement.
Il a fallu mener avec les expéditions en parallèle.
Tout à fait. Mais je veux dire, il était très souvent de retour et effectivement, il avait avec sa maison donc à La Passagère, ça lui permettait à la fois de préparer ses rapports et puis de s'occuper de ses filles grandissantes et de son épouse.
Donc. Mais oui, alors il va faire partie de l'Union des yachts français, avec son premier bateau, le Courly d'ailleurs. Et puis il fait construire le premier, pourquoi pas, en 1893. Alors c'est vrai qu'on se dit, mais d'où lui vient cet amour des zones polaires?
D'abord, c'est un amour de la mer. C'est un amour de la navigation. Et puis petit à petit, il va faire en 1902 un voyage, et là il va avoir la révélation donc des glaces et des voyages polaires. Car en 1902, pour la première fois, non seulement il va traverser, couper le cercle polaire arctique, au nord de l'Islande, mais il va se diriger vers la possession norvégienne de Jan Mayen, et là il va rencontrer les premières glaces flottantes, et ça va être vraiment un coup de foudre, une révélation pour cette navigation, d'autant plus que il ressent donc à la barre de son bateau vraiment une puissance dans cette solitude de la navigation au milieu des glaces. Et à partir de là, pour 1903, il va commencer à organiser sa première grande mission.
Il nous a laissé des documents écrits formidables sur cette relation qu'il a avec les zones polaires.
Enfin, c'était donc elle. Dans quelques heures, nous allions y débarquer, malgré les brumes persistantes, malgré les calmes contrariants, malgré les mauvais temps répétés, malgré les prédictions de l'amiral bien-aimé qui, deux jours avant notre départ, nous soutenait que nous n'y parviendrions pas.
Alors il part dans ses expéditions, vous l'avez cité Serge Kahn, l'été 1902, donc vers les îles Féroé, l'Islande et puis l'île Jan Mayen. Il va faire des études sur la température de l'eau, de l'air à proximité des glaces, sur les pêcheries de baleines, étudier l'étiologie du cancer aussi et autres études bactériologiques dans ces zones polaires. Il faut oublier qu'il a eu son passage par l'Institut Pasteur, là on le ressent. Tout d'abord, quel est son rapport à la science ?
Son rapport à la science est double. Il est d'abord, cette volonté de faire avancer, de faire progresser la science pour son pays. Car Charcot, je le disais tout à l'heure, a une volonté patriotique, mais il a également une volonté scientifique. Et à l'époque, les scientifiques ne s'intéressaient pas aux régions polaires, parce que c'était des régions... disons, où il n'y avait pas d'industrie possible, il n'y avait pas éventuellement de tentation coloniale. Oui. Je parle au fin du 19e siècle, début 20e siècle. Mais Charcot a très vite senti que ces régions étaient ou allaient devenir un véritable laboratoire pour la science.
C'est-à-dire que la France, finalement, Serge Kahn avait délaissé ses zones pour être plus orienté vers les territoires tropicaux. Et finalement, absolument. Du côté français, la dernière incursion vers ces zones et vers le continent antarctique, c'était Dumont d'Urville en 1840.
Voilà, c'était Dumont d'Urville à une époque où il y a eu trois expéditions. Donc l'expédition française de Dumont d'Urville, l'expédition américaine avec Wilkes et l'expédition anglaise avec Ross, notamment pour rechercher le pôle sud géographique. Et magnétique, pardon. Mais ça, c'était janvier 1840.
Et, oui.
Et pendant six décennies, la France est tristement absente des régions polaires.
Alors que les autres pays avancent, les Anglais, les Allemands...
Les autres pays avancent à partir, disons, de 1895 et 1899, où il y a deux congrès internationaux de géographie, l'un à Londres, l'autre à Berlin, qui décident de l'assaut du pôle Sud. C'est-à-dire que la communauté scientifique se rend compte que les régions polaires, qui sont les dernières taches blanches de la planète, doivent être explorées. Et ensuite cartographier.
Mais oui.
Et la France est absente. Et Charcot se rend compte donc dès 1902-1903, quand il a ce coup de foudre pour la navigation dans les glaces, qu'il faut que la France soit présente. Comme la France ne s'y intéresse pas, pardon, c'est lui qui va organiser, avec ses propres moyens, avec des subventions extrêmement réduites, il va organiser une expédition, somme toute, de petite ampleur, mais avec des résultats très conséquents.
Et ça fonctionnera, mais au début, effectivement, il a quelques bonnes raisons d'être attristé par cette distance aussi des Français vis-à-vis des choses de la mer et des secteurs polaires. On va l'écouter tout de suite dans un autre texte lu par Thibaut de Montalembert.
Regrettant l'indifférence et méprisant l'injure, j'ai continué et je continuerai à entretenir et réchauffer les bonnes dispositions des Féringiens à l'égard de la France. J'ai rapporté toute une série de renseignements qui peuvent faciliter la fréquentation de cet archipel. Le service hydrographique de la marine, reconnaissant le bien fondé de mes observations, a publié en même temps que les plans des rades principales les cartes des courants établis d'heure en heure et qui supprimeront la seule réelle difficulté de navigation. Je ne regrette pas mes efforts et je suis tout disposé à les soutenir, mais j'avoue que je voudrais bien que leurs résultats ne soient pas uniquement utilisés par les Anglais, les Italiens et bientôt les Allemands.
Il y va direct, hein, quand même. Il est dans ses textes, effectivement. Il exprime à la fois ça, son inquiétude de voir la France, son pays, perdre sa place. Et puis en même temps, il n'hésite pas, par exemple, en séance plénière du Congrès international pour l'étude des régions polaires, hein, c'était en septembre 1906, à parler de ses prochaines aventures et engager les autres nations à y prendre part.
Oui, tout à fait. Il avait cette volonté qui était vraiment en lui. Et il obtiendra des succès très importants, notamment avec la marine, car il arrivera finalement à intéresser la marine à partir de 1911. Mmh. Et la marine nationale, qui s'intéressait plutôt au côté militaire de sa vocation, il arrivera à l'intéresser au côté scientifique, ce qui a vraiment été une première et qu'on doit mettre absolument au crédit de Jean-Baptiste Charcot, d'intéresser la marine au côté scientifique, avec comme couronnement la participation de la marine à la deuxième année polaire internationale en 1932-1933.
Et je crois que son bateau même sera transformé en bateau-école, non ? C'est ça ?
À un moment, il sera transformé en bateau-école avant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, ce sera une école de chef de car basée à Lorient. Et son pourquoi pas, durant toute sa carrière, sera un laboratoire flottant avec des scientifiques et chaque année seront à bord, et quelquefois même des scientifiques étrangers, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, je veux dire, l'image de la France était importante, et il voulait que son bateau soit un ambassadeur de la France sur les mers, et donc l'accueil d'étrangers, aussi bien scientifiques que passagers, pour être transportés dans les régions polaires, sera quelque chose qui lui tient à cœur.
Alors dites-nous, par exemple, là il y a un départ aussi en août 1903, hein, pour l'exploration des côtes nord et nord-ouest de la Terre de Graham. Il embarque quel type de scientifiques ?
Il embarque des scientifiques, vraiment une équipe tout à fait pluridisciplinaire. Et ça aussi, c'est un aspect très visionnaire de Jean-Baptiste Charcot. C'est que dès ses premières expéditions antarctiques, il arrive à constituer des équipes vraiment avec des spécialités de toute nature dans le domaine scientifique. Et ça se concrétisera d'ailleurs pendant l'expédition avec des rapports qui vont être échafaudés au fil des observations. Et les résultats seront publiés très vite dès le retour.
Alors, il est très en lien avec le Muséum d'Histoire Naturelle, hein, d'emblée, je crois.
Oui.
C'est vraiment l'institution qui le soutient très rapidement.
D'abord, qui lui procure les naturalistes. Ensuite, un certain nombre d'échantillons ramenés de ces deux expéditions antarctiques seront déposés au Muséum. Et ensuite, après ces deux expéditions, après donc 1910, Charcot, comme c'était son propre bateau, pourquoi pas, il va le donner au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui deviendra donc un laboratoire flottant, et Charcot sera nommé directeur de ce laboratoire flottant.
Ce qui lui permettra aussi, il faut le glisser au passage, de régler peut-être le problème de l'entretien, parce qu'il faut dire que Charcot n'a pas hésité à mettre une partie de sa fortune dans ses expéditions, étant donné qu'il n'avait pas forcément tous les soutiens au départ. Et donc, à un moment, ses expéditions coûtent cher, il avait besoin d'être soutenu aussi. Alors, observation scientifique, hein, l'hydrographie, l'océanographie, la météorologie, le magnétisme terrestre, l'électricité atmosphérique, la gravitation universelle, la géologie, la botanique, la bactériologie et la zoologie. Donc ça, c'était par exemple pour cette expédition partie en août 1903. Et oui, la zoologie, l'amour de Charcot pour les animaux, il faut qu'on s'en empare et il va lui-même nous décrire son rapport avec les manchots.
Dans leur placidité, dans la gravité un peu ridicule de leurs attitudes, dans la confiance même qu'ils ont en nous, il y a quelque chose qui impose. Je voudrais les interroger, leur arracher le secret de ces régions, de leur philosophie, et il me semble que l'œil blanc, tout rond comme un bouton d'ivoire sur une étoffe noire du pingouin qui m'observe, est devenu très malin. En me regardant, il a un peu haussé les épaules et qu'il se moque de moi. J'ai eu l'envie, pingouin, de me venger par une pichenette. Mais à mon mouvement, tu t'es dressé si crânement sur tes courtes pattes, tes petits bras s'agitant avec tant d'indignation, ton bec proférant reproches et mépris et me disant si clairement « De quel droit me menaces-tu ? Je te vaux bien !»
Alors Serge Kahn, ce rapport avec les animaux, il est magnifique ce texte. Hein, et donc dites-nous.
Mais il vient de la fréquentation de son père et de sa médecine, vraiment ce rapport à la vie, que ce soit la vie humaine ou la vie animale. Et effectivement, ça peut paraître un petit peu paradoxal, parce que à cette époque, quand on était dans les régions polaires, on avait besoin notamment de viande fraîche, donc on était tenté de tuer des manchots, des phoques, et Charcot interdisait à ces hommes de le faire, sauf nécessité absolue. Donc ils ont fonctionné avec des conserves et avec les maladies qu'on connaît qui s'en sont suivies.
Même s'il était très soucieux d'ailleurs de l'alimentation de ces hommes, on mangeait bien sur les pourquoi pas, je crois.
Oui, sur le pourquoi pas, on mangeait bien. Disons, les soutes avaient été bien remplies et en France et au Chili et en Argentine au moment des dernières escales. Donc il y avait des provisions. Mais effectivement, on avait besoin de viande fraîche. Donc quelquefois, on a eu recours à chasser les animaux, mais vraiment au minimum.
Et alors, donc, il avait vis-à-vis de tous les animaux ce rapport très très proche. Et il y a même l'histoire de la mouette Rita qui est venue sur le pourquoi pas à la fin du mois d'août 1936. Ça, c'est vraiment cette dernière expédition. Mais cette mouette, ça a été très particulier, je crois.
Oui, alors c'était une mouette tridactyle qui était donc du Groenland et qui est atterri sur le pont du pourquoi pas. Et le naturaliste Jacquière, qui était plus particulièrement orienté vers des animaux, a cherché à comprendre pourquoi elle restait sur le pont, pensant qu'elle était peut-être malade ou blessée. Et en fait, il n'en était rien. Elle avait simplement trouvé asile, disons, sur le pont. Et même, il y a une photo qui est célèbre où on voit la mouette Rita en train de manger du saumon en boîte donné par Charcot. Et elle finit jusqu'aux dernières miettes. Et alors, ce qui est émouvant avec cette mouette Rita, c'est qu'au moment du naufrage, cette mouette va être libérée de sa cage quelques heures avant l'ultime moment. Et l'histoire dit qu'elle a continué à tourner, à virevolter au-dessus de l'épave.
Alors c'est un homme, Jean-Baptiste Charcot, qui est meneur d'hommes, soucieux du moral de son équipage, surtout lors des deux hivernages, Antarctique, 1904 et 1909. En moyenne, quand il partait combien de temps?
Il partait près de 2 ans, près d'environ 22 mois. On partait en général au mois d'août, de manière à arriver dans les zones où on pouvait encore naviguer au mois de janvier-février, et l'hivernage proprement dit était donc l'année suivante de mars à novembre-décembre. Oui. Et à la fin de l'hivernage, il y avait ce qu'on appelle la deuxième campagne d'été avant le retour.
Donc deux ans. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il fallait ça aussi à cette époque-là. Alors, il faut rappeler, il n'y avait pas de radio, de radar, de système de positionnement. On est vraiment dans un autre univers. Et puis, résultat des missions, par exemple, 1000 kilomètres de côtes nouvelles reconnues et relevées, 3 cartes marines détaillées, 4 plans, 75 caisses d'observation, de notes, de mesures et de collections destinées au muséum. Ça, c'était pour la première expédition. Et le deuxième hivernage, 3500 kilomètres de levée de côtes de terres nouvelles, de nombreux plans et cartes, des indications sur la navigation et les mouillages, de nombreux échantillons bactériologiques pour l'Institut Pasteur, des études sur les marées, des mesures du gradient potentiel de l'atmosphère, des mesures de la conductibilité de l'air, etc., etc. La liste est longue.
La liste est longue. Il y avait effectivement une moisson colossale d'observations et de mesures scientifiques. Mais il y avait également à cette époque une grande dimension, c'était les observations géographiques. Et on l'évoquait tout à l'heure, les régions polaires et notamment l'Antarctique, c'était une tâche blanche. Donc il s'agissait de faire des relevés de côtes pour tenter de cartographier. Et également, Jean-Baptiste Charcot a fait un travail important de toponymie pour donner des noms à des baies, des caps, des sommets. Il y a plus de 150 noms qui ont été donnés par Jean-Baptiste Charcot et qui se trouvent encore aujourd'hui sur les cartes actuelles de navigation.
Et on peut dire qu'il devient rapidement une légende. On va en parler juste après. Cette musique que l'on vous propose d'écouter, c'est celle du film La glace et le ciel de Luc Jacquet. Musique composée par Cyril Aufort et le titre Adieu Charcot.
Thank you.
Il est 14h32 et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture en direct, émission consacrée à la vie et l'œuvre de Jean-Baptiste Charcot, ce pionnier des explorations en Antarctique, découvreur de terres nouvelles et un humaniste à qui l'on doit d'avoir fait avancer la recherche scientifique en son temps et qui reste un modèle pour nombre d'aventuriers des temps modernes. Nous en parlons aujourd'hui en compagnie de Serge Kahn, passionné de ces zones polaires, ancien président des Amis du commandant Charcot et du Pourquoi pas, et auteur du livre Jean-Baptiste Charcot, explorateur des pôles, tout juste paru chez Glénat. Et puis, je vous propose de retrouver tout de suite la parole de Charcot.
De grandes œuvres désintéressées comme celles que je rêve d'accomplir, que je veux accomplir et que j'accomplirai, sont nécessaires à la gloire de notre pays. En s'intéressant à elles, le public, détourné de préoccupations mesquines, élève son esprit. Et dans cette lutte pacifique, la nation qui sortira victorieuse acquérera l'estime et le respect des nations voisines. Les noms de ceux qui auront la chance d'aboutir disparaîtront dans l'histoire, mais la gloire acquise par l'effort persistant, par l'énergie d'une poignée d'hommes, restera à la nation à laquelle ils appartenaient et qui leur a fourni le moyen de partir. La science n'a pas de patrie, mais les hommes de science en ont.
Serge Kahn, la science n'a pas de patrie, mais les hommes de science en ont. C'était la position de Charcot. Et là, j'évoquais cette musique qu'on vient d'entendre, extrait du film La glace et le ciel de Luc Jacquet, un film consacré à Claude Lorius. Musique était intitulée Adieu Charcot, avec justement presque cette notion-là de patriotisme ou de nation, puisque c'était Adieu Station Charcot.
Oui, effectivement, pendant l'année géophysique internationale, en 1957-58, il y a eu une station qui a été installée sur le continent antarctique, loin de la côte, et on lui a donné le nom de Station Charcot, en hommage à Jean-Baptiste Charcot, qui est quand même l'inspirateur et l'instigateur de la recherche polaire française au XXe siècle, et qui, on va probablement le voir, a transmis le témoin à Paul-Émile Victor, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement. Mais écoutez, si vous souhaitez écouter tout de suite Paul-Émile Victor, on y va. Vous êtes maître à bord, Serge Kahn. 1948, c'est une archive retrouvée par Anaï Morales dans les fonds de l'INA. Et ce sont les souvenirs de Paul-Émile Victor sur sa première expédition au Groenland. C'était pour la radiodiffusion française.
C'est en 1934. Après avoir quitté l'industrie paternelle, j'écrivis ma première lettre au commandant Charcot. Charcot était pour moi, comme pour beaucoup de jeunes, une espèce de dieu, impossible à toucher, dont on lisait les exploits ou les départs dans les journaux. Et sa première lettre de réponse fut qu'il envisagerait avec bienveillance ma candidature éventuelle, mais qu'il n'avait guère de place pour un ethnologue dans une croisière qui ne touchait aux Esquimaux que pendant 2 ou 3 jours. Je réécrivis à Charcot, et cette fois-ci, Charcot me donna rendez-vous dans le hall de réception de l'Académie de Marine. Au bout de 1 minute de conversation, il me dit que c'était entendu qu'il m'emmenait au Groenland, puisqu'il pensait que cette fois-ci, je pourrais y faire, avec mes compagnons, un travail sérieux.
Alors Serge Kahn, rôle essentiel de Charcot auprès de Paul-Émile Victor.
Oui, je crois que cette rencontre à l'Académie de Marine a été fondatrice d'une part pour la vie polaire de Paul-Émile Victor, car donc il a pu partir en 1934 sur le Pourquoi pas, rester un an, faire un travail avec 3 autres compagnons sur la côte est du Groenland, à Angbasalik. Il a été ramené en 1935 également à bord du Pourquoi pas. Et ensuite, comme vous le savez, Paul-Émile Victor a créé, après la guerre, les expéditions polaires françaises. Si jamais, à ce fameux entretien, Jean-Baptiste Charcot avait dit « non, je ne vous emmène pas », au lieu de dire « oui, mon petit, je vous emmène », non seulement le parcours de Paul-Émile Victor, le parcours polaire aurait été autre. D'ailleurs, quand il était plus jeune, Paul-Émile Victor s'intéressait à la fois au froid et au chaud, donc sa vie l'a basculé vers le froid, mais elle aurait pu basculer vers le chaud. Et donc l'histoire polaire française du XXe siècle aurait été différente.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a orienté comme ça des parcours d'explorateurs, de scientifiques que l'on connaît? Alors par exemple, on parlait de Claude Lorius, il y a Jean-Louis Étienne aussi, Jean Mallory, ou des plus anciens aussi.
Bon, Jean-Baptiste Charcot a été un inspirateur, beaucoup s'en sont inspirés. Effectivement, Claude Lorius ou Jean-Louis Étienne, c'est postérieur, ils n'ont pas été en contact avec Jean-Baptiste Charcot, mais Jean-Baptiste Charcot a insufflé quelque chose qui a perduré tout au long du XXe siècle.
Et il a eu des expéditions et des campagnes avec des buts très variés, hein, c'est ce que vous avez relevé dans votre livre finalement. Océanographe, géographe, physicien.
Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le pourquoi pas était un véritable laboratoire et Jean-Baptiste Charcot s'efforçait à chaque fois d'embarquer des scientifiques d'universités, des chercheurs. Je rappellerai qu'en 1927, il y a eu l'ingénieur Marty qui était le créateur d'un sondeur acoustique et donc le pourquoi pas a servi de laboratoire pour tester ce sondeur acoustique. Et normalement, un sondeur acoustique fonctionne avec une coque métallique. Et là, il y avait une coque en bois, donc avec un certain nombre de problèmes liés à cette coque en bois. Mais ce sondeur acoustique a montré ses performances et a été ensuite utilisé après pour sonder et pour tracer les cartes marines. Car effectivement, ça a été évoqué, Jean-Baptiste Charcot, tout au long de sa deuxième carrière, sa deuxième vie plutôt vers le nord, après ses deux expéditions antarctiques, a fait un travail océanographique et hydrographique conséquent. Et notamment, il s'intéressait à l'étude des mers pour aider les pêcheurs français. Et il s'était rendu compte que certains pays avaient une pêche assez développée, mais que les pêches françaises étaient moribondes, c'était stagnante, et il a fait beaucoup de choses avec son bateau pour aider, donner des informations, ne serait-ce que pour les mouillages, trouver des mouillages où les bateaux de pêche français pourraient donc mouiller, stationner. Donc il a fait un travail colossal.
Et alors, combien d'expéditions à son actif ?
Les expéditions antarctiques, donc deux, oui. Hein, on l'a vu entre 1903 et 1910. Et ensuite, ça a été des campagnes annuelles jusqu'en 1936. Chaque année, le pourquoi pas est parti à partir de 1920, après la Première Guerre mondiale. Chaque année, le pourquoi pas est parti pour des campagnes. Et à partir de 1925, ça a été ce qu'on appelle le cycle du Groenland. Le pourquoi pas est parti tous les ans au Groenland.
Et jusqu'à cette année fatale, hein, 1936, je vous propose d'écouter un dernier document extrait des fonds de l'INA. C'était le 17 septembre 1951 pour le 15e anniversaire du naufrage de Charcot. Et c'est Georges de Caune qui a fait entendre dans cette émission le témoignage du seul rescapé, le quartier maître le Gonidec, au micro de Jean Doublet de la radio de Rennes.
Il existe encore dans le cimetière de Reykjavik quelques tombes de marins français, quelques tombes de marins non identifiés, et les Islandais vont souvent se recueillir sur ces tombes des marins du pourquoi pas, et les Français des expéditions polaires françaises sont allés cette année, au mois de mai, déposer quelques fleurs sur ces tombes anonymes. Mais il existe aussi, parmi tout cet équipage disparu, il existe un homme qui, par un véritable miracle, a réussi de se sauver du désastre. Il s'agit du quartier maître, le Gonidec.
On a dérivé pendant un bon moment, sans pouvoir contrôler notre dérive.
Oui.
Et le bateau est mitalonné sur une roche, puis a sombré au large de la côte de Stromfjordur en Islande.
Est-ce que vous avez jeté l'ancre pour ne pas aller sur les rochers?
On a mouillé les deux ancres, mais elles ont dérapé sur le sol du rocher, après avoir été projetées à l'eau.
Oui.
En poussant le grand canot à la mer.
Oui.
J'ai comme dernière vision de voir le
commandant
Charcot sur la passerelle, au moment où il prononçait les paroles, mes pauvres enfants.
Oui.
Ils s'apitoyaient sur notre sort. Nous avions tous pris notre bouée de sauvetage auparavant, oui. Sur ordre du commandant.
Oui. Et alors, vos camarades se sont jetés à l'eau. Vous-même, vous vous êtes jeté à l'eau, je crois.
Je ne me suis pas jeté à l'eau, j'étais projeté à l'eau moi-même. Je suis resté 4 heures dans l'eau.
Et
le vent a soufflé à 125 km/h.
Et alors, au bout de ces 4 heures, quelle a été votre réaction?
J'ai tendu les bras vers un paysan islandais de 19 ans qui m'attendait en arrivant à la côte. J'ai perdu connaissance, j'ai resté sans connaissance pendant 3 heures après.
Et vous avez dit, est-ce que vous avez parlé?
J'ai pleuré. Mais je ne savais pas encore que mes camarades étaient tous disparus.
C'est un témoignage émouvant, le dernier rescapé donc de ce naufrage. Serge Kahn, comment est-ce que le commandant Charcot, qui s'était joué des glaces, des mers, de conditions plus difficiles, comment s'est-il fait prendre ce jour-là, le 14 septembre 1936, par la mer?
Écoutez, il faut un petit peu faire un petit retour en arrière. Le bateau donc a été lancé en 1908. Donc c'était un navire qui était déjà ancien. Chaque année, à partir de 1920-1925, Charcot signalait à la marine les réparations à faire, les remises en état. Certaines choses étaient faites, mais pas tout, pour des questions de crédit.
Oui, budgétaire. Oui.
Et jusqu'à la fin de sa vie, Charcot a été obligé également de trouver des subventions, des aides financières pour ses missions. Et la machine était vraiment à bout de souffle. D'ailleurs, il avait dit, avant de partir en 1936, il avait dit « ce sera probablement mon dernier voyage et la machine finira avec moi ». Il se rendait bien compte que la machine était à bout de souffle. Et probablement, il y aurait eu une machine plus performante à bord du bateau. Probablement que lors de cette tempête d'équinoxe du 16 septembre 1936, le navire aurait pu se sortir de ses écueils.
Ah oui, je disais le 14 septembre, c'était le 16. Hein.
Voilà.
Oui, oui. Et face à Reykjavik. Et donc finalement, il va sombrer, rester sur son bateau et voir ses hommes sombrer avec lui. Hommage national lui sera rendu le 25 novembre 1936 hein, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Alors aujourd'hui, Serge Kahn, que reste-t-il de lui au-delà du fait qu'il reste un symbole pour les aventuriers des pôles? Vous avez donc travaillé aussi au cœur des archives familiales. Il y a la maison familiale hein, que l'on... Est-ce que l'on peut visiter d'ailleurs cette maison aujourd'hui?
Sur demande, on peut la visiter. D'accord. C'est pas ouverte au public, mais on peut la visiter donc sur demande.
Alors que reste-t-il de lui?
Il reste beaucoup de choses en fait. Il reste, d'abord une volonté associée, comme je le disais, à un patriotisme et à un grand désintéressement. Et je crois que la qualité humaine de Charcot est vraiment ce qui ressort quand les scientifiques actuels se penchent sur ce parcours. Ensuite, il reste un côté visionnaire du scientifique, comme je le disais, avec ses équipes pluridisciplinaires qu'il avait su constituer dès ses expéditions antarctiques. Il y avait également des moyens logistiques conséquents en Antarctique. Il y avait des stations à terre pendant les hivernages. Il y avait les laboratoires à bord du bateau. Donc on pouvait faire un travail continu et consistant. L'hivernage permettait également de faire des observations pendant les quatre saisons, donc ce qui permettait de faire des comparaisons. Et les résultats étaient tout de suite mis en forme, de manière que les publications soient publiées dès le retour. Donc ça, c'était un côté visionnaire du scientifique. Et ça, c'est resté, ça a continué à inspirer les scientifiques, polaires ou non, après.
Et puis il y a votre livre hein, que l'on conseille à nos auditeurs, Serge Kahn. Merci d'être venu partager cette première partie de La Marche des Sciences. Donc votre livre, j'en rappelle le titre, Jean-Baptiste Charcot, explorateur des pôles. Donc un livre tout juste paru chez Glénat. Et puis sur notre site, on mettra les autres livres, notamment sur les traces de Jean-Baptiste Charcot. Donc ce retour sur les traces que vous avez vécues avec la petite fille de Charcot. Et puis j'en profite aussi pour les adolescents en cette période de cadeaux de Noël. Je conseille deux livres qui forment une suite basé sur des histoires vraies et qui offre au lecteur voilà, ces grands espaces. Alors là, on est en Alaska, les chiens de traîneau, les conditions extrêmes de cette terre gelée et une jeune héroïne, Elisabeth. Le premier s'appelle La dernière course, qui prend place d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale et qui va entraîner l'héroïne de l'Alaska aux Vosges françaises. Et puis le deuxième tome, Muche, qui parle de l'épidémie de diphtérie qui a sévi sur le territoire de l'Alaska en 1924. Deux romans de Pascal Vatinel, édités chez Actes Sud. Ça, c'est pour les ados. Et quant à nous, eh bien, on poursuit La Marche des Sciences, direction le théâtre.
France Culture, La Marche des Sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec la présentation de Binômes de la compagnie Les Sens des Mots de Thibaut Rossigneux. Demain, donc à 14h30, vous aurez l'occasion de découvrir un de ces binômes intitulé Atlantide de Jean-René Lemoine et de Florence Sylvestre, paléoclimatologue. Et donc ce sera à l'auditorium Angèle et Roger Tribouillois de Bondy. Et les binômes, ce sont ces pièces de théâtre qui sont le résultat de la rencontre entre un auteur et un scientifique. Il en existe déjà 25. Alors c'est la symbiose qui s'est créée entre l'auteur Julie Aminte et l'océanographe Bruno Tedetti de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste de biogéochimie marine, et qui a abouti à la pièce de théâtre Les Larmes Acides de Bonne Maman, eh bien, qui a retenu notre attention. Nous allons vous en parler, mais en avant-goût. Allez, un petit extrait de cette rencontre improbable.
Vous cherchez à détruire ou savoir comment on gère ou on contrôle les matières anthropiques.
Ouais, alors, ouais. On essaye de... Mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une première étape qui est comprendre déjà, quantifier déjà, qu'est-ce qu'il y a exactement.
Voilà, on
quantifie, on évalue les stocks. Voilà, le stock, le stock. tu vas en faire des cauchemars.
C'est énorme.
Bonjour Julie Aminte.
Bonjour.
On se rend compte qu'effectivement, ces rencontres, comme je disais, improbables, suscitent aussi beaucoup de rire, de sourire. Alors, vous êtes, j'allais dire, auteur pour le théâtre. Vous dites autrice, hein, c'est le terme aujourd'hui utilisé pour les auteurs de théâtre. Et après des études littéraires, donc vous avez intégré, je rappelle un peu votre parcours, hein, le Conservatoire d'art dramatique de Toulon. Et puis, c'est l'écriture, hein, pour le théâtre qui vous a séduit. Et vous avez déjà quelques belles pièces à votre actif. Et donc, Thibaut Rossi, avec sa compagnie Les Sens des Mots, vous sollicite pour vivre l'expérience binôme. Alors, je rappelle le principe, les contraintes, c'est une heure de rencontre entre un auteur et un scientifique. Ensuite, pendant un mois et demi, plus de contact du tout entre vous. Vous avez un mois et demi, Julie Aminte, pour écrire, imaginer une pièce, en sachant qu'il y a souvent d'autres choses sur le feu. Et puis, eh bien, il faut aboutir à une pièce d'une demi-heure pour trois voix, c'est ça ?
Exactement, oui, c'est le défi.
Alors vous rêviez de rencontrer quel type de scientifique ?
Eh bien, j'avais pas d'a priori particulier. Je pensais pas du tout tomber sur un biogéochimiste. Mm-hmm. Donc non, j'avais pas d'a priori particulier. J'ai été surprise de rencontrer Marc Tedetti, parce que bon, il a une trentaine d'années, donc voilà, c'est aussi une même génération qui se rencontrait. Mais en tout cas, oui, moi, je me laissais aller complètement à la surprise de qui j'allais rencontrer, un homme, une femme, une personne de mon âge ou pas. Voilà, j'étais un peu ouverte à la rencontre.
Mais avec l'envie d'entrer en contact avec ce monde des sciences qui n'est pas forcément un monde qui croise le monde du théâtre, d'ailleurs.
Ah non, tout à fait, ouais, non, c'était ça qui était chouette et assez excitant. Et un peu stressant aussi, c'était voilà d'aller rencontrer quelqu'un dans un domaine, je veux dire qu'il maîtrise un domaine que moi je ne maîtrise pas du tout. Donc c'était cette confrontation entre deux mondes qui a priori ne se rencontrent jamais, qui moi voilà me paraissait sympathique et intéressante.
Alors un monde des sciences qui a ses codes et son vocabulaire, je vous propose d'en donner un petit extrait pour nos auditeurs. Autre partie de cette rencontre d'une heure entre vous.
On a travaillé avec les collègues du laboratoire Proté à Toulon sur des carottes de sédiments de la baie de Toulon.
C'est quoi des carottes ?
Des carottes, c'est des prélèvements de sédiments.
D'accord, alors, ok.
C'est sous forme de carottes si tu veux, parce qu'on a des carottiers.
Ah, c'est d'accord.
On enfonce le carottier au fond, on récupère une carotte de sédiments.
Ok.
Donc, c'est de la, on peut, entre guillemets, de la sorte de boue, tu vois, qu'on prélève. C'est les plongeurs qui sont allés prélever pour nous. À peu près 60 cm, je crois, d'épaisseur de carottes. Et donc, ces carottes ont été découpées en tranches de, je sais pas, 2 cm d'épaisseur chacune. Ouais. Et puis, on a analysé, nous, les polluants dans chacune de ces tranches.
Voilà. Marc !
Voilà.
Au secours.
Fini déjà ?
Ok.
Julie Aminte, franchement, est-ce qu'à un moment, ou peut-être au début, ou au cours de cette rencontre d'une heure, vous êtes dit, oh là là, mais c'est un univers tellement éloigné du mien, mais qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer ?
Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, je me le suis dit pendant et après aussi, une fois que j'avais, bah, je prenais des notes. On avait le droit quand même à l'enregistrement, donc j'ai réécouté Marc, il m'a hanté pendant le mois et demi de délai pour rendre la pièce. Donc voilà, pendant oui, un vrai, vrai bout de temps, je ne savais pas ce que j'allais faire de toute cette masse d'informations, de termes techniques et pas à pas et peu à peu, voilà, j'ai essayé de proposer une sorte d'analogie poétique parce que effectivement le vocabulaire n'est pas du tout un vocabulaire que je maîtrise. Il a un caractère très inhabituel pour les néophytes. Et du coup, ça a aussi permis, je crois, au niveau imaginaire, à un moment donné, un vrai décollement, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce vocabulaire-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte à nous qui ne maîtrisons pas du tout ce domaine? Et comment on peut s'en emparer pour dire autre chose, ou en tout cas le dire autrement avec les propres outils qui sont ceux du théâtre. Donc c'était extrêmement angoissant au départ et en même temps une espèce de défi assez joli.
Réenchanter le vocabulaire scientifique et la science au théâtre. Alors rapidement, en une minute, Julia Mint, un autre défi. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez abouti à quel type d'histoire que vous nous racontez? Il faut rappeler que Bruno Tédéhi travaille sur le stock de CO2 dans les océans et il cherche des solutions possibles pour dépolluer les mers.
Exactement. Bah, moi, ce qui m'avait un peu troublée, parce que je l'ignorais ou je l'avais su, mais de façon très très vague, c'était comment les déchets anthropiques, nos déchets, nos propres pollutions, empêchaient le travail des micro-organismes qui sont présents dans les mers et qui sont un peu nos sauveurs, puisque c'est grâce à eux que le CO2 je veux dire, le CO2 et on vole le carbone du CO2 et ils nous permettent de renouveler l'air. Et j'aimais cette idée de quelqu'un, parce que à Marseille on dit la bonne mère pour parler de la mère, et j'ai imaginé donc peu à peu une grand-mère qui aurait cette espèce de don qu'ont les algues et les bactéries marines d'absorber un peu les mauvaises ondes.
Et oui, pour dépolluer. Avec, ouais. Et oui, mais jusqu'au
moment pour dépolluer l'atmosphère.
Jusqu'au moment où elle n'y arrive plus. Je vous propose tout de suite, Julia Mint, d'écouter un extrait de votre pièce.
Bonne maman est malade. Nous n'avons pas encore réussi à déterminer les origines de son état. Nous y travaillons d'arrache-pied au labo. Ce qui est sûr, c'est que son système immunitaire se détériore. Des toxines.
Je veux un cookie.
Un baiser d'abord.
Merci, mon papa.
Vos analyses sont dépassées, Maxime. Vous avez prélevé à une mauvaise période, une période révolue. Maintenant, ma Cora est en pleine forme.
Chaleureuse et hystérique.
Elle reçoit du monde, les clients sont ravis. Pas un pour faire les gros titres.
Bon papa a blacklisté tous les musiciens, même les ménomades, ils sont proscrits.
Prudence et mère de sûreté, un précepte auquel je tiens.
Maxou, c'est comme l'encyclique, toujours un temps de retard sur la vie.
Écoutez, les capteurs affirment qu'il y a un taux anormalement élevé de mauvaises ondes ici. Ils ont même relevé un pic ces deux dernières semaines. Vous pouvez toujours prétendre que les prélèvements appartiennent au passé, croire que la situation a depuis miraculeusement évolué. C'est sans compter sur les capteurs. Eux, ils sont branchés jour et nuit, même le week-end. Ils enregistrent en continu l'activité atmosphérique de cette maison. Au labo, nous recevons en direct les informations qu'ils détectent. Je suis formel. Un drame est en train de se nouer entre ces murs.
Julia Mint, merci en tout cas de cette participation, de cette aventure que vous avez vécue. Et si vous le voulez bien, je propose aux auditeurs de vous retrouver. Alors il y aura des dates pour retrouver les larmes acides de Bonne Maman. Donc 1er mars à Creil, 29 avril à Marseille. Vous avez une autre actualité, ceux qui aimeraient vous découvrir dans votre travail d'auteur de théâtre. Une famille aimante mérite de faire un vrai repas. Ce sera proposé donc au Théâtre 95 à Cergy-Pontoise les 8 et 9 janvier prochain. Et puis ceux qui veulent découvrir les principes binômes, demain à Bondy, 14h30, rendez-vous, et tous les détails vous sont donnés sur le site de la Marche des Sciences. Et c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et de vos commentaires sur nos sites. Il est là pour vous. Émission préparée par Catherine Donné, Anaï Morales a piloté les archives sonores de l'INA et Thibaut de Montalembert nous a fait revivre le commandant Charcot. Merci à Romain Couturier de la discothèque, Alexandra Malka à la réalisation, à la technique David Federman. La semaine prochaine, 24 décembre, à l'écoute plus que jamais, bien sûr, en ce jour, eh bien, nous vous offrons une semaine spéciale héros sur nos antennes et une semaine spéciale Einstein aussi dans la tranche culture science, et nous vous entraînerons dans l'histoire de la visite d'Einstein à Paris en 1922, de la science, mais pas que, passionnant récit, et nous serons avec Jean Eisenstedt, Michel Biesinski, également l'auteur Corinne Maillère qui a fait d'Einstein un héros de BD.